On a un élève qui est un élève tout à fait ordinaire.
Je l'ai vécu comme une belle expérience et une expérience positive pour la classe.
La scolarisation des élèves présentant des troubles des fonctions visuelles. Une émission Réseau Canopée, présentée par Claude Pereira-Lecomte.
Les troubles des fonctions visuelles nous semblent familiers, tant la littérature, le cinéma ou la télévision mettent en scène des personnages qui en sont atteints. Ces représentations, souvent homogènes, peuvent laisser penser que les difficultés du quotidien sont aisément surmontables. Au sein des établissements, la réalité est différente, car les troubles des fonctions visuelles sont plus rares. Selon les chiffres publiés dans l'enquête du ministère de l'Éducation nationale « Repères et références statistiques sur les enseignants, la formation et la recherche », en 2018, il serait 5200 élèves à être scolarisés en milieu ordinaire. La faible prévalence de ce trouble à l'école a plusieurs effets. Au cours de sa carrière, un professeur peut ne pas rencontrer cette situation. Et s'il y est confronté, il peut être déstabilisé par une réalité qu'il connaît mal et plus complexe qu'elle n'y paraît. Les troubles des fonctions visuelles sont donc le sujet de notre émission avec Pascal Aymard, enseignant spécialisé du secteur médico-social, Clotilde de Tellier, enseignante spécialisée, et Grégory Wirth, IENASH. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour préparer cette émission, j'ai rencontré des enseignants qui exercent en milieu ordinaire et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur les troubles des fonctions visuelles et surtout s'ils avaient déjà scolarisé un enfant en présentant ce trouble. Tout d'abord, presque aucun d'entre eux ne s'était retrouvé dans cette situation et lorsque je leur ai demandé de me dire ce qu'était ce trouble, ils avaient des représentations à la fois très stéréotypées et aussi un peu floues. Est-ce que ces réponses vous étonnent, Clotilde de Tellier ?
Non, ça ne m'étonne pas du tout. C'est vrai que nous avons des références un peu stéréotypées, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une forme de malvoyance, mais des formes de malvoyance, que chaque élève est réellement différent face à son trouble et qu'il faut vraiment avoir ça en tête quand on accueille un élève malvoyant. C'est-à-dire qu'un élève malvoyant peut très bien ne pas voir du côté gauche ou bien du côté droit, et ce qui aura une incidence sur le placement face au tableau. Il peut être très gêné par la lumière, ce qui aura une incidence sur un port de lunettes de soleil, par exemple.
Grégory Wirth, est-ce que vous voulez compléter ?
Il est vrai que dans le registre de la scolarisation des élèves en situation de handicap, les troubles des fonctions visuelles sont peu représentés, on va dire, en quantité, et que ces élèves-là sont davantage scolarisés en dispositif ULIS du premier ou du second degré ou en établissement spécialisé. Donc en effet, je pense que les enseignants du milieu ordinaire ont eu peu, voire jamais eu l'occasion de scolariser un élève aux troubles des fonctions visuelles.
Est-ce que vous pourriez aussi développer ces différents types de manifestations des troubles des fonctions visuelles, Pascal Aymard ?
Oui, alors je ne suis pas surpris non plus, d'abord, par les réponses qui sont apportées et les différentes représentations qui viennent de beaucoup d'éléments médiatiques, en fait, et pas toujours judicieux. Alors en fait, si on devait faire une classification sous la forme des troubles, pour être très synthétique, d'abord il y a la catégorie plutôt de la cécité, hein, donc le fait de ne pas voir du tout ou de ne pas voir suffisamment pour être capable de se saisir de l'information visuelle. Donc là, il faut distinguer les cécités précoces, les cécités congénitales et les cécités dites tardives quand, à partir de 3-4 ans, on s'est déjà constitué une bibliothèque visuelle. On a déjà des références, ça change complètement la donne. Ensuite, dans le champ de la malvoyance, on peut distinguer quatre parties, je dirais. La première sont les problématiques de vision de détail, en fait. La deuxième, c'est celle des visions globales, justement, avec un problème, dans ces cas-là, de dynamique, c'est-à-dire des objets en mouvement. Il y a tous les troubles neurovisuels qui, là, sont issus, de, par exemple, d'agnosie, où on n'arrive pas à reconnaître les choses qu'on voit, les éléments, disons, d'analyse corticale. Et puis, on a un paquet qui fait tout ça en même temps, avec des visions floues, et comme vous le disiez, des élèves qui ne voient pas bien à gauche ou à droite, etc. Mais c'est pour être vraiment synthétique, là aussi.
Il y a aussi des représentations sur lesquelles j'aimerais bien que l'on revienne. Par exemple, quand on interroge les personnes sur justement des gens atteints de troubles des fonctions visuelles, on nous parle du braille, on nous parle de la canne blanche, et puis il y a autre chose dont on nous parle souvent, c'est le fait que ces enfants touchent le visage de leurs interlocuteurs pour les reconnaître. Alors, je vous vois tous les trois sourire, donc lequel d'entre vous, Clotilde Tellier, je vous ai vu avancer.
Ces représentations-là, elles existent. Enfin, faut pas nier ça. Des élèves qui ont besoin du braille, qui ont besoin de la canne et qui ont besoin de toucher, ça existe. Après, si on se recentre sur le milieu ordinaire, c'est vrai que, comme disait M. Wirtz, c'est quand même pas... les enseignants seront quand même plutôt confrontés à peut-être des élèves en situation de malvoyance plutôt que de cécité totale.
Oui, Grégory Wirtz.
L'important, après, pour l'enseignant, c'est de se baser sur le projet personnalisé de scolarisation et l'étude des besoins de cet enfant ou de cet adolescent-là dans le champ de la scolarisation. Est-ce qu'il s'agit d'avoir des compensations aussi en termes d'accompagnement humain, si nécessaire, hein, la canne blanche peut être humaine. Et après, il y a tout le volet aussi de la compensation sur des outils numériques ou sur les adaptations pédagogiques. Et ça, il faut accompagner l'enseignant dans la mise en œuvre.
Oui, Pascal Aymar, je vous ai vu particulièrement sourire sur cette question de toucher le visage.
Oui, parce qu'en 15 ans ou 16 ans maintenant de métier, je n'ai jamais croisé un élève qui m'ait demandé de pouvoir toucher mon visage. Ce n'est pas une pratique qui se fait dans un champ, je dirais, social habituel. Ce serait même un petit déficit d'habileté sociale qu'on recadrerait gentiment en expliquant que c'est délicat. Voilà, ça peut se faire dans le champ en privé, j'espère. Mais c'est absolument pas habituel. Mais finalement, pour un pédagogue, l'intérêt aujourd'hui, il me semble que c'est plutôt de s'intéresser aux besoins éducatifs particuliers qui ne correspondent pas forcément à la représentation qu'on a des troubles, justement.
Oui, c'est justement là où je voulais en venir en vous écoutant. Il me semble vraiment que la question de ces représentations en emmène une autre, c'est-à-dire celle des choix pédagogiques de l'enseignant. En fait, vous venez d'y répondre, il s'agit peut-être plus de réfléchir en termes de troubles, mais en termes de besoins. Et donc, est-ce qu'on doit essayer de combler des manquements ? Ou est-ce qu'au contraire, on doit considérer les troubles des fonctions visuelles comme une opportunité d'ouvrir de nouveaux possibles ? Ou est-ce que c'est un peu les deux, Grégory Wirtz ?
Alors en effet, il est intéressant de se positionner au lieu de faire la recherche des manques ou du trouble, de pouvoir s'attacher à quels sont les besoins éducatifs particuliers, comme on vient de le dire, et peut-être de mener les enseignants à la réflexion de ce qui fait obstacle aux apprentissages. Donc soit de développer des compensations, elles peuvent être matérielles ou physiques, mais au-delà des compensations, quelles sont les adaptations pédagogiques qui seront au service justement de cette compensation et de pouvoir se dire qu'est-ce qui fait obstacle aux apprentissages lorsque je suis dans telle situation en tant qu'apprenant et pas savoir forcément ce qu'il manque.
Oui, Pascal Aymar, je vous entends réagir.
La question à se poser quand on est enseignant, c'est finalement de quoi cet élève a-t-il besoin à cet instant donné pour pouvoir rentrer dans les apprentissages. Tous les élèves ont besoin d'apprendre à lire, mais pour certains d'entre eux, il va falloir passer par un codage spécifique, braille par exemple, ou bien des documents adaptés en gros caractères. Et puis ça recouvre énormément de notions techniques quand on parle de tout ce qui concerne les besoins liés à une déficience visuelle, on va dire, parce que là, il y a beaucoup d'outils numériques, il y a beaucoup d'outils concrets qui permettent des manipulations, etc. Donc c'est un champ extrêmement dense. C'est pour ça aussi que on a peu d'élèves qui sont scolarisés en milieu ordinaire, touchés par ce type de troubles.
Oui, vous commencez à rentrer dans les pistes concrètes qui vont intéresser justement nos auditeurs. Et avant de poursuivre notre échange, je vous propose d'écouter un extrait d'une émission datant de 1958 et tirée des archives audiovisuelles de Réseau Canopée. Elle traite des différentes lésions visuelles. J'ai choisi un extrait dans lequel le commentateur énumère les différents outils qui sont à la disposition de ses élèves. On écoute et on en parle après.
Il nous faut alors évoquer le cas beaucoup plus douloureux des aveugles dont la cécité peut avoir des origines très diverses. Des efforts méritoires ont été faits en vue de lutter contre leur isolement. Cette écolière a appris à lire avec ses doigts. Il existe en effet un procédé permettant de traduire les lettres par des arrangements de points en relief que l'aveugle peut lire avec ses doigts. C'est l'écriture braille. De même, on a imaginé des dispositifs de calcul permettant aux aveugles de faire des opérations. Avec un guide adapté à leur travail, ils peuvent en transcrire les résultats. De nombreux aveugles ont ainsi pu acquérir des connaissances souvent fort étendues.
Quel outil peut-on proposer à ces élèves ? Est-ce que vous pouvez m'en parler, Clotilde Tellier ?
Alors moi, en tant qu'enseignante itinérante, ce sont des élèves qui sont inclus dans des classes ordinaires, principalement des élèves malvoyants. Donc là, sur l'extrait, on n'entend vraiment parler que des élèves non-voyants et du braille. Donc c'est quand même très spécifique. Et là, ça demande réellement une compétence spécifique de l'enseignant. Néanmoins, les élèves qui sont malvoyants, on peut les aider autrement que par le braille. Déjà, dans un premier temps, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas une forme de malvoyance, mais plusieurs formes de malvoyance. Donc, il faut vraiment travailler avec le service de soins qui est là pour l'élève, pour justement aider l'enseignant à avoir une idée de la malvoyance et une idée de quelles adaptations on peut mettre en place.
Oui, Grégory Wirth.
Oui, tout à l'heure, quand on parlait aussi de l'analyse des besoins spécifiques de l'élève en question, dans l'idéal, ce serait aussi de pouvoir, en tant qu'enseignant de la classe, pouvoir se dire quelles sont les adaptations nécessaires à cet élève-là, mais qui, du coup, peut-être que je peux mettre au service de toute la classe, parce qu'on va considérer qu'il y a un travail à préparer pour l'ensemble de la classe, puis un travail spécifique pour cet élève, ou des adaptations spécifiques qui sont parfois un peu coûteuses en temps et en réflexion, mais que peut-être dans mon projet de classe, je peux mettre au service de tous les élèves. On a parlé d'agrandissement ou de police, et je pense que de penser aussi tout l'aménagement des espaces ou de la salle de classe, on parlait du positionnement de l'élève dans la classe, ou de la lumière par exemple dans la classe, et je pense qu'on peut l'imaginer à l'échelle de tout le groupe, et pas que d'un seul élève.
Oui, Pascal Guémard.
Il y a une question d'outils et il y a une question de stratégie. Là, vous venez d'évoquer la question des stratégies qui est très intéressante et qui serait à développer. Sur les outils, ce qui est rigolo dans l'extrait, c'est qu'en fait, déjà, il y a l'aveugle avec un grand paquet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne dirait probablement plus aujourd'hui de façon très sérieuse. Et puis sur la question des outils qui ont été cités, finalement, ils sont toujours d'actualité. Le cubarithme, même s'il n'est pas nommé, donc cette planche pour permettre de faire des calculs adapté en codage braille, est toujours utilisé, et d'un usage d'ailleurs très large, pas uniquement sur les mathématiques. Le braille est toujours utilisé également, fort heureusement. Maintenant, on a vu apparaître le braille codé sous forme informatique, qui a amené des aménagements qui étaient nécessaires et qui là est issu des nouvelles technologies. Donc les outils ont évolué. On n'a pas banni les anciens outils, on continue à s'en saisir régulièrement. On a beaucoup d'expérimentations qui aboutissent parfois sur des innovations très concrètes. Et il y en a énormément. C'est florissant parce que finalement, c'est un champ d'investigation qui est passionnant, je crois. Et donc, il y a beaucoup de pédagogues qui créent. Il y a beaucoup de services de soins aussi qui apportent leur expertise pour pouvoir développer des choses qui sont plutôt issues de la vie quotidienne et qui se ramènent dans le champ de la pédagogie. Donc, c'est des champs d'investigation extrêmement larges. Et pour des outils concrets, il y a beaucoup de ressources précises qui existent. Je pense à l'association Valentin Huy qui propose des outils en vente sur Internet. Il y a des sites comme Optoys, par exemple, qui répand beaucoup d'outils aussi. Et puis, il y a tout le champ médico-social qui en apporte énormément.
Grégory Wirth, est-ce que vous voulez compléter ? Je vous voyais acquiescer.
Oui, tout à fait. Et je pense aussi que lorsqu'on propose ces outils techniquement après indispensables à l'élève, on peut aussi après avoir la réponse de où est-ce que je peux les trouver. Donc on a cité aussi quelques fournisseurs et comment je les finance aussi. Donc en effet, dans une école du premier degré, est-ce que la municipalité pourra, ou dans le second degré, est-ce que le département pourra le financer. Après, il faudra que imaginer aussi qu'on a des personnes ressources, les équipes de circonscription ASH, les pôles inclusifs de département ou dans nos rectorats aussi, nos collègues formateurs et inspecteurs aussi sur l'éducation inclusive qui parfois ont du matériel de prêt ou ont peut-être aussi les bonnes adresses ou les bons numéros de téléphone pour mutualiser et prêter ce matériel-là.
Alors depuis tout à l'heure, vous me parlez d'outils, de matériel. Clotilde de Tellier, est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples pour que nos éditeurs puissent vraiment se représenter ces outils ?
Moi, je voudrais un petit peu nuancer tout ça, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même eu beaucoup d'élèves qui étaient en milieu ordinaire sans outils ou avec très peu d'outils. Donc, c'est quelque chose de faisable pour l'enseignant d'accueillir un élève malvoyant dans sa classe. C'est faisable parce que c'est des petits outils assez simples et qui peuvent servir à toute la classe, notamment épurer des leçons. C'est des choses très simples à faire. Souvent, dans les petites classes, on a envie de rajouter des petits dessins sur des exercices de mathématiques ou autres. Tout ça, c'est des choses qu'il faut éviter Donc ça, c'est des choses que le service médico-social peut aussi donner. Alors, je dis service médico-social, mais évidemment, je pense en premier lieu aux enseignants ressources qui peuvent donner ces petites choses. Mais tout ça, ça peut vraiment aider la classe, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui vont bénéficier de ces aides.
Alors moi, Clotilde Tellier, j'aimerais que vous développiez, parce que vous êtes enseignante sur le terrain. Qu'est-ce que l'on voit mis en place dans les classes pour ces enfants qui ont des troubles des fonctions visuelles? Décrivez-nous ça, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on voit mis en place? C'est-à-dire qu'on met en place petit à petit...
Alors vous parliez justement par exemple, d'épurer les documents, voilà. Donc ça, nous voyons tous avec, en tant qu'enseignants, on enlève les dessins. Vous avez parlé tout à l'heure d'augmenter les caractères. Quoi d'autre? Quel autre geste simple peut-on faire?
Travailler par compétence tout simplement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enlever des dessins, épurer, mais épurer par exemple quand on arrive sur des cycles de géographie tout simplement, éviter de travailler sur plusieurs compétences en même temps sur une carte de géographie, mais... se focaliser sur, un travail sur les fleuves de France, eh bien, on va travailler sur les fleuves de France et pas les fleuves, les montagnes et les grandes villes en même temps. Et dans ce cas-là, faire 3 cartes, des choses beaucoup plus épurées, compétence par compétence. Et ça rentre dans le cadre d'une classe ordinaire.
Pascal Guémard.
C'est sûr que la question est plus simple quand on se place du côté de certains besoins liés à des adaptations visuelles qu'à des besoins liés à l'absence de vision. Et du coup, on va employer beaucoup plus facilement des stratégies que des outils précis. Et là, vous en avez cité un certain nombre assez simples à mettre en place. Il y a aussi, je vais juste ajouter la question de la verbalisation de ce qui est écrit au tableau, puisqu'on a des enseignants qui pointent. Vous voyez ça? Et puis, non, pas vraiment. Donc, c'est des aménagements aussi de la structure, on va dire, du document pédagogique qui est distribué. Le fait d'épurer, c'est très important. Le fait de choisir les dessins et de les placer à un certain endroit, en fait, après les questions, par exemple. Enfin, sont des stratégies assez élémentaires et qui, comme vous l'avez dit, servent à l'ensemble de la classe. Ça, on le voit régulièrement. Pour la question des élèves qui ont des besoins de remplacement, on va dire, du code visuel, là, la question est effectivement un peu plus fine à aborder, puisqu'il va falloir mettre en place non seulement des outils très spécifiques qu'on ne trouve pas ailleurs que dans un domaine spécialisé, et en même temps des stratégies particulières aussi, qui ne sont pas loin d'être les mêmes que celles qu'on se pose sur le champ de la malvoyance, on va dire. Mais donc là, on a besoin de choses. Et donc, parmi les innovations, puisque vous posiez la question des outils concrets, ce qui, par exemple, est arrivé récemment, c'est des étiquettes autocollantes en bigraphisme, mot qu'on double, qui permet d'avoir à la fois un codage visuel, donc écrit en ce qu'on appelle en noir, pour tout le monde, quoi, et puis du codage en relief au-dessus. Donc ça permet de poser, d'étiqueter des figures que les élèves ont produites, alors qu'avant, on avait des stratégies beaucoup plus compliquées. Et ça, c'est apparu grâce au progrès de l'édition adaptée, par exemple. Mais on en a beaucoup d'autres sur le champ du numérique, avec des outils informatiques qui maintenant deviennent assez puissants.
Vous pouvez nous en donner des exemples précis?
D'outils numériques,
quelques-uns.
Oui, d'ordinateurs en braille, par exemple. On a, alors, je vais essayer de ne pas citer de fournisseurs.
Oui, sans donner de nom.
Mais on a des bloc-notes braille, c'est-à-dire des ordinateurs qui sont autonomes, qui permettent d'avoir la récupération d'un fichier texte. Qui va, donc un fichier texte tapé par un enseignant, alors bien tapé là aussi, il y a une question de stratégie, et qui va ensuite du coup apparaître en codage braille pour l'élève, qui peut le compléter et qui peut ensuite le retransmettre à l'enseignant sous forme, on va dire, d'écriture ordinaire. Alors ça a ses limites, bien entendu, et toutes les avancées technologiques ont leurs limites pour les élèves aveugles. Une des difficultés, c'est tout ce qui relève de la production graphique de dessin. Et là, en termes d'outils numériques, on n'a pas encore atteint le sommet qui serait d'avoir des tablettes tactiles, au sens tactile en relief, et qui permettraient d'avoir des productions de dessins. Ça, j'en rêve, j'avoue.
Grégory Wirth.
Alors, ce qu'on voit aussi en classe ordinaire et qui est utilisable pour ces élèves-là, c'est les logiciels de dictée vocale. Parfois qui peut être une compensation à la production écrite, qui est coûteuse aussi en temps. Donc, et ça, on le voit déjà en classe ordinaire se développer pour les élèves dyslexiques, par exemple. Donc ça, on peut le transposer aussi parfois pour ces élèves-là. Et il y a un outil qu'on voit aussi de plus en plus dans les classes, assez abordable, les vidéo loops ou les vidéo scans, voilà, qui ressemblent à une lampe de chevet et qui scanne de façon instantanée un document et qui peut l'agrandir en temps réel pour le projeter à la classe. Et si c'est un texte, même de le traduire en Word, agrandi assez rapidement.
Oui, avec les visualisateurs voilà, qui sont connectés avec les TBI. On a parlé donc des outils, qui étaient vraiment intéressants, tout ce que vous nous avez présenté. Maintenant, je voudrais bien aussi qu'on puisse parler des attentions que doivent avoir les enseignants quand ils scolarisent un enfant ayant des troubles des fonctions visuelles. Et là, je vais employer un mot pour vous faire réagir. Je vais employer le mot « fatigabilité ». Est-ce que ces enfants n'ont pas tendance à être plus rapidement fatigués que les autres, Clotilde Tellier ?
Alors, fatigable, je ne sais pas. Fatigué, sûrement. Voilà. Je pense que fatigué, sûrement, parce que ce sont des élèves qui sont en situation de handicap visuel et qui sont sollicités autant qu'un autre élève, mais qui ont, ou plus même, parce que je vois que ça réagit, davantage parce que...
Oui, donc vous disiez qu'effectivement, il y a cette question, on n'est pas sur la question de la fatigabilité, mais d'une réelle fatigue. Grégory Wirtz, je vous vois réagir.
Alors, en effet, je pense que tous nos élèves à besoins éducatifs particuliers sont des élèves fatigués, fatigables non plus, je ne sais pas, mais en effet, parce qu'ils... On leur propose des compensations, eux-mêmes mettent en œuvre des compensations naturelles ou qu'on a guidées et qu'on leur a explicitées à mettre en œuvre. Et je pense que pour l'enseignant, pour ces types de troubles-là, dans le champ des fonctions visuelles, il faut les mener vers une approche sensorielle dans la compensation, je dirais même jusqu'à neurosensorielle parfois, et développer aussi des stratégies au quotidien qui sont du coup davantage dans le sens auditif et dans le champ du toucher aussi. Et quand je disais à l'échelle de la classe tout à l'heure, ça peut être une dominante pour tout le groupe.
Oui, Pascal Aymard.
Et ça peut être fatigant, justement, d'avoir à solliciter sans arrêt un autre sens, une modalité palliative, notamment en ce qui concerne la modalité dite tactilo-kinesthésique, parce qu'on emploie du toucher, mais jamais sous forme statique, c'est toujours dynamique. Et donc l'information reçue, elle est parcellaire, il faut la synthétiser à la fin. Ça réclame une concentration extrêmement importante. Donc, moi, je ne suis pas du tout candidat pour employer le terme fatigable dans l'absolu. Certains élèves le sont davantage parce qu'une pathologie peut amener ça, effectivement. Mais on ne peut pas généraliser en se disant que tous les élèves déficients visuels sont fatigables. En revanche, effectivement, je pense que concrètement, passer une journée sous bandeau, pour ceux qui l'ont déjà fait, alors qu'on est quand même voyant quand on retire le bandeau, et on le sait, psychologiquement ça compte, c'est extrêmement éprouvant. Ça nécessite de faire abstraction de tous les bruits environnants de la classe. Donc là aussi, stratégie de l'enseignant, ça peut être intéressant de penser à essayer d'amener un calme, la distribution de la prise de parole, des choses comme ça, et puis de se dire qu'il y a des aménagements à faire pour mener des activités, les évaluations, les temps de repos, énormément d'éléments qui peuvent permettre à l'élève de moins éprouver une fatigue qui est réelle et normale.
Moi, je repense à un camarade de classe que j'ai eu qui commençait à perdre la vue peu à peu et qui, en plus de ses cours de toute la journée, le soir avait entre 1h30 et 2h d'apprentissage du braille pour préparer son avenir d'adulte. Donc, c'est pour ça que je suis venue vous parler de cette question. Et je voudrais rester justement sur cette situation, ce camarade de classe et vous demander, n'y a-t-il pas des moments dans la vie d'un enfant qui est atteint de troubles des fonctions visuelles, des moments un peu plus délicats à gérer. Je pensais justement à l'adolescence, Clotilde de Tellier.
Ah oui, c'est vrai que moi j'ai rencontré des élèves qui se mettent à cacher justement leurs difficultés. En milieu ordinaire, un élève malvoyant, ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément de lunettes, il n'a pas forcément de canne blanche, il n'a pas forcément... Et donc, j'ai rencontré beaucoup d'élèves qui se mettaient à reprendre des cahiers ordinaires pour pouvoir faire comme tout le monde, à reprendre des stylos ordinaires pour pouvoir encore une fois faire comme tout le monde. Puisqu'à l'adolescence, on n'aime pas être montré du doigt. Et là, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les enseignants soient sensibilisés aux difficultés de l'élève pour pouvoir lui accorder un temps supplémentaire
une
attention particulière, exactement.
Oui, Pascal Aymard, toujours sur cette question de l'adolescence, cette période de l'adolescence.
Non, c'est... effectivement un moment assez complexe pour tous les jeunes, qu'il est d'autant plus quand on a à faire, je dirais, le deuil d'une certaine projection qu'on avait, jeune. On sait statistiquement que au moment du collège, c'est là où certaines ruptures de scolarisation en milieu ordinaire se font. C'est pas issu simplement, à mon avis, de la nouvelle difficulté des apprentissages. C'est aussi un questionnement social, psychologique, affectif, qui se met en route. Et cette question de qu'est-ce que je vais devenir, et au niveau de l'orientation scolaire, au niveau de l'orientation personnelle. Il y a des familles qui rejouent le drame de la cécité ou de la malvoyance à cet âge-là aussi. Donc, il y a beaucoup en fait, d'éléments qui s'enchevêtrent et qui amènent les élèves à se poser de nouvelles questions ou alors à se reposer les mêmes questions, mais complètement différemment, avec l'idée d'une réalité qui arrive un peu brutalement. Et puis, les adolescents sont, alors sans vouloir faire une généralité là non plus, mais sont parfois un peu durs dans le regard qu'ils portent les uns sur les autres et du coup sont durs avec eux-mêmes. Donc là, ça se surajoute, je pense.
Grégory Wirth, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement améliorer la formation des enseignants sur cette question des troubles des fonctions visuelles ?
Alors, sur le champ de l'information, ouais. Il est vrai que l'enseignant va avoir besoin d'un étayage du partenaire de soins, on va dire au sens large, hein, médico-social ou sanitaire. Et quand on évoquait le facteur psychologique, ils vont aussi avoir besoin de distinguer si on est sur un trouble inné, acquis, ou même s'il est très difficile à vivre pour autant tout au long de sa vie d'élève et d'adulte, qui ne sera pas la même chose que pour un élève où on parlait de la situation de votre élève.
Et de mon camarade
dans
de
l'histoire,
classe.
Voilà, de se dire que si on est sur une pathologie évolutive, je pense que l'impact psychologique il sera différent. Et ça, il faut que l'enseignant, même s'il n'est pas psychologue et qu'il est pédagogue, qu'il l'ait en tête dans son approche sur la disponibilité à être élève à certains moments ou à apprendre. Dans le champ de la formation, donc il existe les modules d'initiatives nationaux hein, sur différents types de troubles, même si on n'aime pas nécessairement rentrer par l'approche des troubles. Celui-ci demande des adaptations et des compensations spécifiques qui existent. Et chaque département et académie soit organise dans son plan de formation une approche plus globale de l'étude de ce qui fait obstacle aux apprentissages et parfois avec une entrée, mais il faut être honnête, très à la marge sur les troubles des fonctions sensorielles d'une manière générale. Et après, on fait appel à nos professeurs ressources, qu'ils soient du premier ou du second degré, pour apporter leur expertise, mais qu'on vise de façon plus singulière sur une situation d'élève que de le traiter d'une façon plus générale.
Mais n'y a-t-il pas aussi besoin d'avoir des formations croisées qui associent des gens, des pédagogues, des gens enfin, du milieu de l'éducation nationale, du médico-social, mais aussi peut-être des élus, pour qu'ils puissent comprendre Pascal Aymard.
Ah oui, alors... C'est à mon avis, la clé de la réussite future de l'inclusion et du plan dont on parle beaucoup. Évidemment, la dynamique politique qu'on a en ce moment, elle est extrêmement pertinente au regard de cette question de la formation et de ce que vous venez d'évoquer, les formations croisées. Moi, j'ai en mémoire une journée entière qu'on avait passée en tant que moi formateur avec des enseignants de l'éducation nationale pour partager des données qui venait de l'école avec des questionnements pédagogiques ordinaires et ce que vous avez évoqué ici, comment je fais pour accueillir de façon très simple. Et puis des éléments qui venaient de professionnels dits experts, même si j'aime pas trop cette catégorie-là non plus, mais qui amènent des questionnements qui sont aussi un peu polarisés. Et donc en fait, c'est cette rencontre qui fait avancer réellement les situations. Les enseignants vont être créateurs d'outils aussi, à la marge. Alors dans le premier degré, on est très souvent en train de bidouiller, et c'est un terme honorable dans ma bouche. On le fait aussi dans le champ spécialisé, mais ce qui est pour moi intéressant, c'est la rencontre entre ces deux approches. Toutes ces expérimentations qu'on fait dans le champ spécialisé ne sont pas toujours cohérentes avec un terrain d'enseignant ordinaire, et parfois, voilà, on nous amène d'autres choses.
Oui, Grégory, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose justement sur ces formations croisées ?
Oui, alors je suis assez d'accord sur l'artisanat du professeur des écoles qui a besoin dans le champ de la formation peut-être pour construire des outils ou des réponses pédagogiques encore plus pointues et adaptées, qu'on leur apporte l'étayage ou la traduction sur les fonctions exécutives de ces élèves-là qui ne sont pas tout à fait les mêmes en termes de procédures dans les apprentissages. Alors bien sûr, c'est une approche neurocognitives et les enseignants le font déjà. Mais dans le champ de la compensation, je pense que ça fait une autre traduction chez les élèves aux troubles des fonctions visuelles. Mmh. Il faut peut-être leur apporter cet étayage-là sur notamment la mémoire de travail ou la planification de la tâche. Elle est
l'inhibition.
Très différente, oui. Exactement, mmh. Très différente.
Là, on parle de formation entre professionnels, mais moi, je pense qu'il y a un partenaire essentiel, voire même deux partenaires essentiels pour réussir cette inclusion. Est-ce que Clotilde Tellier, vous pourriez nous parler justement du rôle des parents, mais aussi du jeune, pour permettre une bonne scolarité ?
Voilà, vous avez tout dit. Le rôle des parents et le rôle du jeune dans sa scolarité, c'est à mon avis essentiel. C'est-à-dire qu'on peut même rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à un élève adolescent. C'est-à-dire que la prise de conscience de son trouble, puisqu'on parle des troubles des fonctions visuelles, me semble essentielle. Et le fait de travailler avec les parents et les enseignants sur l'approche sur toute la classe, en fait, l'idée de pouvoir communiquer à la classe, de pouvoir communiquer de son trouble et d'essayer d'expliquer et d'expliciter tout ça pour pouvoir être le plus à l'aise possible et ne pas être à la marge. Et ça se travaille, à mon avis, avec les professionnels, les parents et le jeune.
Là, ce que vous me dites, c'est vraiment une question de construction d'un parcours scolaire, mais aussi d'un futur parcours professionnel. Et moi, j'aimerais bien, pour que nous puissions conclure cette émission, que vous me parliez peut-être d'expériences que vous avez rencontrées durant votre carrière d'enfants qui, justement, ont eu ce parcours. Pascal Aymar.
Alors, spontanément, me vient en tête une anecdote avec une jeune fille que j'ai accueillie en sixième, donc dans un collège ordinaire, hein, et qui donc était aveugle congénitale, pour reprendre cette classification congénitale précoce ou tardive, comme on dit, et qui donc était confrontée, arrivée en troisième, à une activité sur GeoGebra. Donc il s'agissait en dynamique, en fait, de construire des figures géométriques pour comprendre, en fait, une notion. Et puis l'enseignant de la classe me voit et me demande, en fait, là je vois pas du tout comment je vais faire avec elle. Et en fait, à l'époque, j'étais très concentré sur des activités de pliage géométrique pour des jeunes aveugles. Et en fait, on a reproduit la même activité que celle qui était abordée sous GeoGebra, le même protocole de construction, mais en configuration, du coup, papier plié. Et puis, à l'issue de la séance, donc pendant la même heure, elle travaillait à plier du papier pendant que les élèves étaient sur GeoGebra, en suivant le même programme, finalement. Et à l'issue de l'heure, les élèves qui avaient vu cet élève produire en papier, en fait, sont allés voir l'enseignant pour lui demander « Mais en fait, c'était drôlement intéressant ce qu'elle a fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas nous aussi l'expérimenter ?» Et l'enseignant a rebondi sur cette situation en employant la même stratégie de pliage géométrique pour tous les autres élèves de la classe. Et du coup, on a eu, en fait, pour lui, c'était l'aubaine, deux approches pour bien saturer la notion. L'inclusion sociale se faisait réellement et l'élève était valorisé, donc c'était jackpot, quoi.
Oui. Grégory Wirth.
Moi, j'ai souvenir d'une élève de début de cycle 2 que nous avions accueillie à l'unité d'enseignement de l'hôpital pédiatrique où j'exerçais, et sur le champ d'une maladie orpheline en pleine recherche, qui du coup nécessitait de ne plus être en milieu ordinaire, mais à l'hôpital. Et avec les enseignants de l'unité d'enseignement, on cherchait à modifier la méthode d'apprentissage de lecture, d'encodage. Autant sur la phonologie, on était resté sur les outils ordinaires, mais que sur l'encodage, il avait fallu passer. On a parlé des étiquettes. Voilà, en écriture noire et à la fois aussi en relief. Et on était passé par un changement de méthode, mais nécessairement avec l'aide des ergothérapeutes. De la mise en place de damiers, par exemple, sur le support de table. Voilà. Ce sont des outils assez faciles à mettre en place dès lors qu'on les connaît.
Clotilde de Tellier, vous avez le mot de la fin.
Moi, j'ai le souvenir d'une élève aveugle en milieu ordinaire. C'était il y a quelques années déjà, il y a une vingtaine d'années. Donc, c'était assez complexe, c'était assez rare. Bon, et c'était une élève qui avait été complètement prise en charge par toute l'équipe enseignante de l'école. Et j'ai un souvenir de... Elle était en CP, puis en CE1, où tout se passait très bien. Et la petite anecdote de fin, c'est que je me suis dit que là, l'inclusion était totale. C'est quand elle jouait dans la cour aveugle total. Elle jouait dans la cour avec ses camarades et qu'on lui disait « Pauline, Pauline, regarde !» Je me suis dit « c'est bon, tout le monde est... l'inclusion était totale. »
C'est la fin de cette émission. Je remercie nos trois intervenants et invite les auditeurs à consulter toutes les ressources de l'espace Cap École Inclusive sur le site réseaucanopée.fr. Les troubles des fonctions visuelles, une production Réseau Canopée 2019.